Merci Tiffaine, bon week-end. Poison noir, fée grise, enfer ou paradis, d'opium en mescaline, de morphine en ecstasy, quand les stupéfiants travaillent l'écriture et vice-versa, avec aujourd'hui Cécile Guilbert et Raymond Bellour.
La compagnie des poètes, par Manu Farine.
Et c'est jusqu'à 16h.
J'ai jadis fait usage d'un remède onirique, l'opium, remède qu'on a tendance à confondre avec une drogue. J'écrivais un jour « L'esprit du fumeur bouge immobile comme la moire ».
L'opium, ce remède onirique, et c'est Cocteau qui le dit, mais aussi morphine, héroïne, cannabis, mescaline, LSD, éther, cocaïne, crack, amphétamine, ecstasy. De quoi consoler, asservir, augmenter conscience et connaissance, de quoi écrire, parfois, bonne et mauvaise littérature. Drogue et littérature, c'est justement ce que vous collectez hein, dans une massive anthologie, Cécile Guilbert aux éditions Robert Laffont. 300 textes, une histoire, disons, parallèle hein, de la littérature, qui laisse, on s'en serait douté un petit peu, hein, grand place à la poésie, et qui dit « L'invariance de la prise de stupéfiants » d'Homère à Will Self. Stupéfiants à partir desquels vous dégagez finalement, ça c'est en toute fin d'ouvrage, hein, deux paradigmes, le produit et la dose. Qu'est-ce qui se joue là, Cécile Guilbert, produit et dose, enfer et paradis?
Oui, en fait je m'aperçois en travaillant cette question depuis longtemps que la drogue en fait provoque beaucoup se met dans le dualisme en fait. Hein. Enfer, paradis, bien, mal, échapper, enfermement, prescrit, proscrit, licite, illicite. Bon, on est toujours dans ces dualités. Évidemment, le premier paradigme de la drogue au sens effrayant du terme et au sens social, disons, médical, c'est le produit. Donc le produit, c'est la chose, la drogue, le produit dont on est dépendant, qui provoque le manque, qui provoque la lassitude, qui provoque des souffrances, qui provoque la difficulté de décrocher et qui provoque l'effet létal, terrible, l'overdose. Et puis, à côté de ça, on a la dose, terme inventé par Philippe Sollers pour désigner une drogue imaginaire dans Medium et qui est l'illimitateur de conscience, l'élargisseur de conscience, le lucidogène, quelque chose qui vous donne une autre dimension de votre esprit, qui vous fait ouvrir d'autres portes, les portes de la perception et qui, en général, concerne plutôt les drogues psychédéliques, ce qu'on appelle les fantastica dans une ancienne terminologie. Donc, on se met toujours dans ces deux univers, en fait.
Ce qui est aussi le cas pour Michaud, comme on le verra très bientôt. À propos de littérature, c'est par le soma que vous ouvrez votre propos, avant d'entrer donc dans la réalité du produit et dans les effets de la dose. Qu'est-ce que cette drogue-là, ou breuvage, porte en elle pour que vous la placiez au seuil hein, des écritures de la drogue.
Alors en préalable, je me suis intéressée à ces deux drogues mythiques qui sont le soma et le népenthès chez Homère. Ça, c'était juste pour montrer que la prise d'une substance psychotrope est voilà, d'un mystère qui remonte aux origines de l'humanité. Et ce qu'on peut trouver de plus ancien, sans doute, dans les écritures humaines, c'est cette poésie védique de plusieurs milliers d'années avant Jésus-Christ. C'est pas très intéressant de savoir ce qu'est le soma réellement, hein, si c'est une plante, si c'est un champignon, comme il y a eu beaucoup de débats autour de ça. Parce que si la drogue est un invariant anthropologique qui concerne toutes les civilisations et qui remonte aux origines de l'humanité, il faut quand même préciser pour l'auditeur qui ne le sait pas, c'est qu'en fait l'exploration littéraire de la drogue est un phénomène récent, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que l'humanité prend de la drogue ou des plantes ou des substances depuis l'origine, mais en fait les écrivains s'intéressent à l'effet que ça peut leur faire, s'ils en prennent, ou si d'autres en prennent, c'est très récent. Alors avec le soma se joue une divinité en fait. Le soma c'est un dieu, on sait pas ce que c'est quelque chose dont on s'enivre pour se rapprocher de Dieu et pour justement peut-être dans la philosophie indienne briser la dualité, s'identifier au produit, être un, en fait, retrouver cette unité primordiale. Donc il y a beaucoup d'hymnes védiques, du soma. C'est une substance en même temps qui est assez ambiguë, parce que c'est tantôt un dieu, tantôt le feu, tantôt quelque chose qui ressemble à une liqueur, tantôt un dieu du Panthéon. C'est hindou, donc c'est mouvant. C'est mouvant, mais c'est clairement du côté de la dose paradisiaque, en fait.
Et qu'on va retrouver, qui va revenir en fait, cette question-là de se rapprocher des dieux par la drogue jusque dans les années 60. Même Michaud, Raymond Bellour, d'une certaine façon, qui, lors d'une prise de mescaline, parle de rencontre avec les dieux.
Oui, c'est des drôles de dieux, mais il prononce effectivement le mot. Dans la mesure où la drogue ouvre à des univers insoupçonnés, et chez quelqu'un qui a quand même eu une enfance et une adolescence religieuse, je veux dire une formation, christianisme, etc., mystique et tout, il est normal que les dieux soient là comme une sorte de référence, enfin de point de butée, si on peut dire. Hein. Ça suppose la vision de quelque chose, par définition, de paradisiaque, quoi, je veux dire. Et en même temps, c'est un ailleurs qui est pas atteignable. Enfin, je veux dire, les dieux, c'est le point limite, quoi, il me semble.
Alors surtout que chez Michaud, comme on le verra, c'est peut-être davantage savoir plutôt que paradis. Produits et doses qui donneront donc auto-observation, texte, dessin, peinture, poème, prose, fusain, encre chez Michaud, comme ça tombe bien, Raymond Bellour, votre stupéfiant à vous, d'une certaine façon. Michaud qui vous accompagne et vous fait écrire. Ce sera Henri Michaud ou Une mesure de lettres, déjà en 1965, et puis édité les trois volumes de la Pléiade, ou encore signé Lire Michaud, récemment paru en Tel Gallimard. Pour Michaud, ce sera donc mescaline, hashish, psilocybine, mais la reine des drogues, la plus littéraire des drogues. C'est bien celle qu'évoquait Cocteau, qu'on entendait tout à l'heure, le poison noir. Cocteau qui devint, lui, véritablement opiomane en 1923, après la mort de Radiguet. Cocteau qui en disait « dire les drogues en parlant d'opium revient à confondre du pommard avec du pernod ». C'est vous qui nous le rappelez, Cécile Gilbert, dans l'anthologie. Et vous dites aussi qu'il pratiquait l'opium en aristocrate. Qu'est-ce que ça voudrait dire ?
C'est une drogue qui nécessite un rituel, qui a une esthétique de l'opium, il y a une esthétique du matériel de fumerie, il y a quelque chose qui déjà est... Du point de vue de la beauté de l'objet est déjà très séduisante en fait. C'est la seule drogue qui a cet appareillage, cet outillage, cet équipage esthétique du plateau de lac, du feu, des pipes sculptées. Il y a eu les seringues de Pravas qui pouvaient être très jolies dans les poudriers ou les sacs à main de ces dames fin de siècle. Mais si vous voulez, l'opium, c'est vraiment une esthétique. Et puis c'est une jouissance du temps. Et on y reviendra sûrement avec Michaud, mais cette dimension du temps est fondamentale dans la prise du produit. Le temps dont on dispose, le temps qui se dilate, le temps dont la perception se modifie, ce qui n'est pas le cas avec les psychostimulants, évidemment, qui donnent lieu à des textes beaucoup moins intéressants du coup, avec lesquels on écrit sous l'influence, mais pas à propos d'eux. Donc Cocteau, qui est un esthète... très ridiculisé, d'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais par exemple, dans un livre de Pierre Dreux-La Rochelle, qui est Le Feu Follet, qui est l'histoire d'un héroïnomane inspiré de Rigaud, Cocteau est décrit dans ce livre un peu comme une sorte de dandy de l'opium, un peu ridicule. C'est une caricature, mais c'est vrai qu'voilà, il y a cet aspect esthétique de l'opium qui est fondamental, et c'est aussi celui qui fera rêver tous les fumeurs d'opium contemporains qui rêvent de retrouver ça, mais tout ça a disparu.
C'est donc par lui qu'on commencera.
Le port de Saïgon est une jonque chinoise, mystérieuse et sournoise, on ne connaît pas son nom. Mais le soir dans l'entrepont, quand la nuit se fait complice, des Européens se glissent, cherchant des coussins profonds. Opium, poison de rêve, au ciel, c'est toi qui nous élève au paradis artificiel. Je vois le doux visage, les
Opium, fumée de rêve, poison de rêve, hein, chante Marcel en 1931, qui est un moment où l'opium vit presque ses dernières voluptés littéraires, hein, pas tout à fait, mais au moins jusqu'à la guerre. Qu'est-ce qui en fait, comme vous l'annoncez, alors vous y avez déjà un petit peu répondu, Cécile Guilbert, mais qu'est-ce qui en fait la plus littéraire des drogues, hein?
Si la première exploration de l'imaginaire des drogues remonte à la fin du XVIIIe siècle, elle concerne effectivement l'opium, et elle concerne le laudanum, pour être précis. Et c'est important les précisions, parce qu'en fait, le laudanum, qui est cet opium liquide en fait, qu'on boit, cette décoction à partir d'opium, est d'un usage extrêmement facile, en fait. Et j'ai toujours été étonné. Il y a un tel monde, si vous voulez, entre boire du laudanum et fumer de l'opium. C'est la même substance, et en même temps, ça n'a rien à voir, en fait. Ça n'a rien à voir esthétiquement, et ça n'a rien à voir dans la façon dont on prend le produit. Et effectivement, ça a à voir dans les effets qui sont ceux de calmer le système nerveux et provoquer ses rêveries. Alors, en même temps, boire du laudanum qu'on achète comme ça en vente libre en Angleterre et qui dissipe les tourments moraux, les souffrances, le spleen, dont on imagine bien que ce climat anglais le favorise, qui était aussi la drogue de Baudelaire et dont il se vantait pas, mais on sait qu'il était dépendant du laudanum lui aussi. Ce laudanum, il produit des effets a priori types, comme toutes les drogues, mais en fait, on s'aperçoit qu'en fonction des individus, on n'a pas l'impression jamais qu'ils prennent la même substance, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il y a déjà une fiction qui s'établit quand on écrit. Il faut reconstituer. On n'écrit pas sous l'emprise de l'opium pour écrire sur l'opium. On écrit toujours après coup. On en parlera de Michaud qui est sûrement, en fonction de certaines prises de produits, essayé d'écrire ce qu'il vivait à l'instant même où il sentait les effets des choses. Mais Quincy, Baudelaire, tous les auteurs qui ont écrit sur le laudanum ou l'opium, ou même les poètes, écrivent après coup, ils reconstituent quelque chose qui est littéraire, qui est une fiction avec un artifice. Donc en fait, il n'y a pas d'effet type de cette drogue, mais bon, on voit bien qu'elle provoque une rêverie, une méditation, une remontée dans les souvenirs, et chez de Quincy, quelque chose qui est comme s'il se libérait, ce qui en fait, à mon avis, un précurseur un peu des théories freudiennes. Il a bien compris que le produit, en fait, lui servait comme dans une cure à faire remonter les traumas, à les évacuer, à faire fonctionner le rêve comme une catharsis, des choses comme ça. Ça, c'est très singulier chez de Quincy.
L'opium dont Michaud se tiendra relativement éloigné, alors je crois qu'on en a quand même quelques traces
alors ça, c'est fascinant.
À la fin des années 20.
Pardon, c'est fascinant, parce que cette drogue graine qui a séduit tous les écrivains, justement Michaud, qui est le plus grand écrivain des drogues, dit « l'opium n'est pas mon allié, n'est pas mon ami, je ne l'aime pas, il n'aime pas l'opium ».
Oui, il en parle peu d'ailleurs.
Oui, mais il a goûté, mais il ne l'aime pas.
Lui, c'est le hashish, enfin la drogue base pour Michaud, c'est le hashish avant les grandes expériences mescaline, etc., etc. La drogue de base, disons, celle qui provoque la rêverie, l'écriture, l'observation, etc., c'est le hashish. Quand, je ne sais plus dans quel texte il fait le compte de toutes les prises de drogue qu'il a faites, qui se résument à moins de choses que ce qu'on croit d'ailleurs, hein, au niveau empirique. Le hashish, c'est 75%, je veux dire.
Alors, puisque vous l'évoquiez, justement, Cécile Guilbert, on écoute celui qui en fut le maître et l'esclave.
Ô juste, subtil et puissant opium, toi qui, au cœur du pauvre comme du riche, pour les blessures qui ne se cicatriseront jamais et pour les angoisses qui induisent l'esprit en rébellion, apporte un baume adoucissant. Éloquent opium, toi qui par ta puissante rhétorique désarme les résolutions de la rage et qui pour une nuit rends à l'homme coupable les espérances de sa jeunesse et ses anciennes mains pures de sang, qui à l'homme orgueilleux donne un oubli passager des torts non redressés et des insultes non vengées, qui cite les faux témoins au tribunal des rêves pour le triomphe de l'innocence immolée, confond le parjure, qui annule les sentences des juges iniques. Tu bâtis sur le sein des ténèbres, à l'aide des matériaux imaginaires du cerveau, avec un art plus profond que celui de Phidias et de Praxitèle, des cités et des temples qui dépassent en splendeur Babylone et Hécatompyle. Et du chaos d'un sommeil plein de songes, tu évoques à la lumière du soleil les visages des beautés depuis longtemps ensevelies et les physionomies familières et bénies, nettoyées des outrages de la tombe. Toi seul donne à l'homme ses trésors, et tu possèdes les clés du paradis, ô juste. subtil et puissant opium.
Juste, subtil et puissant, il y aurait donc une dimension morale, Cécile Gilbert, à la prise d'opium chez Quincy, dont on vient d'entendre un extrait des Confessions d'un mangeur d'opium, lu par Evelyne Guimara.
La première justification morale qui vient à l'esprit, c'est qu'il ne faut jamais oublier qu'on prend aussi des drogues pour des raisons thérapeutiques. Et que c'est effectivement le cas de Quincy, qui est en fait...
Par la douleur, on y entre
voilà,
par la douleur.
On y entre par la porte de la douleur, de l'extase, de la volupté ou du chagrin. Bon, il y a bien d'autres raisons, il y a bien d'autres raisons et d'autres portes à tout ça d'ailleurs. Mais voilà, de Quincy, c'est le premier self-biographe qui se rend compte qu'il a pris du laudanum pour des raisons thérapeutiques, vraiment des problèmes physiques, des maux gastriques, des pathologies voilà physiques, et que il est entraîné. Parce qu'il y trouve autre chose, et c'est comme quand on prend de la morphine.
Vous citez d'ailleurs Cécile Gilbert, évidemment, ce moment-là en Angleterre. Vous citez évidemment Coleridge, et Kubla Khan, Quincy. Charlotte Brontë aussi, par un court texte. J'imagine que ça a dû vous intéresser, Raymond Bellou.
Oui,
vous,
j'étais ravi de retrouver ce texte que je ne m'attendais pas à trouver dans cette anthologie. Je l'avais, je dois dire, un tout petit peu oublié à l'intérieur de Villette, mais c'est un moment assez...
Voilà, alors on ne sait pas si Charlotte Brontë prenait vraiment du laudanum, parce qu'elle, elle le met en scène dans un roman. Alors, il y a aussi, voilà, il faut faire la part des choses entre ceux qui expérimentent et qui décrivent les effets, et puis il y a
ceux qui en font un sujet.
Voilà, qui en font un sujet romanesque, qui mettent ça, leurs personnages de roman prennent des substances. Alors, selon que l'auteur a connu ou pas ces substances, les effets sont plus ou moins fantaisistes. Hein. Chez Villette, bon, visiblement, les effets sont quand même un peu fantaisistes. Peu importe, ils ouvrent à une fantasmagorie, ils ouvrent à un imaginaire, ils ouvrent à des effets singuliers.
Moi, je pense pas qu'elle ait jamais pris d'opium. Vraiment, en revanche, le frère, Branwell,
oui,
qui était névrosé, maux de tête, etc., etc., a pris beaucoup, beaucoup d'opium.
Oui, et puis il y a Elisabeth Sidal, qui est cette poétesse longtemps considérée comme une muse, la femme de Dante Gabriel et Rossetti, là, le chef de file des pré-raphaélites, et elle était elle-même une poétesse, et elle est morte d'une overdose de laudanum, ou elle s'est suicidée au laudanum. J'ai retrouvé un poème d'elle, qui n'est pas très gai. Mais toutes les femmes, on s'aperçoit aussi qu'il y avait beaucoup de femmes poétesses en Angleterre. Hein, je les cite un peu en introduction à mon texte sur l'opium, mais pas vraiment des textes que je cite dans l'anthologie. Il y a beaucoup de femmes, on voit écrit des odes au pavot, on écrit de la poésie qui célèbre le pavot. Il y a toute une vogue comme ça en Angleterre, alors qu'ils n'ont pas de pavot et qu'ils n'ont pas d'opium au sens fumé. Hein, il y a juste du laudanum qui chante les prestiges. Alors il y a une sorte de mode, hein, c'est beaucoup de poncifs aussi. Hein.
Oui, parce que alors des femmes finalement, il y en a un peu plus hein, ce que j'attendais, Cécile Gilbert. Alors ça dépend évidemment des drogues, hein, mais vous vous attardez aussi sur les femmes et la morphine, hein, notamment au début du XXe siècle, hein, qui était très consommatrice de morphine.
Oui, la morphinée, c'est un comment dire, ça finit par devenir un lieu commun de la littérature décadente fin de siècle française, alors que il n'y a pas énormément de femmes, si vous voulez, qui témoignent de leur prise de morphine à cette époque. Il n'y a pas tellement de femmes écrivaines de cette époque. J'en ai pas beaucoup cherché. Il n'y a pas d'ailleurs beaucoup de femmes dans cette anthologie. Enfin, quand on pense qu'il y a plus de 220 auteurs cités, il y a quoi? Une dizaine de femmes. Et quand des femmes en prennent, comme Anaïs Nin ou comme, voilà, des poétesses qui sont dans les environnements masculins artistiques, parce que c'est une affaire d'écrivains, mais c'est une affaire d'artistes aussi. Il y a les peintres, les musiciens, il y a toute la bohème, hein, toujours, qui est concernée par cette histoire. Bon, les femmes. Alors la morphinée fin de siècle, c'est un sujet qui est mis en scène avec des dépravations terribles, parce qu'en fait c'est une histoire de faire des portraits terribles des femmes qui s'adonnent à la morphine. Elles sont systématiquement perçues comme des dépravées qui sombrent dans le saphisme, qui sombrent dans l'orgiaque, qui sombrent aussi, qui sont punies. Il y a une visée moralisatrice.
Les textes de Catul Mendès,
voilà,
d'ailleurs.
Catul Mendès, Méphistophéla, toutes ces femmes sont des goules. On les voit comme des. Vous voyez, on voit vraiment la peinture symboliste. Fin de siècle, elles sont atroces. Mais elles-mêmes, elles prennent pas la plume, en fait.
Donc là, on est, nous voilà donc en France, et je me demandais ce que c'était que de se droguer ici et se droguer là-bas, je veux dire par rapport à l'Angleterre, sur ce que c'était que d'être opiomane anglais et opiomane français au XIXe siècle. C'est autre chose qui se joue en France ?
Il n'y a pas tellement de fumeries d'opium en France à la fin du 19e siècle. En fait, les fumeries d'opium et les Français qui découvrent l'opium le découvrent en fait dans les colonies françaises. Hein.
Vous écrivez quand même en 1901, il y a plus de 1200 établissements où on fumait de l'opium à Paris.
Ah oui. J'ai écrit ça.
Je pensais parce que ça m'a frappé.
Non, mais c'est vrai. Bon, il y a effectivement
parce
des.
Parce que oui. Ça n'était pas illicite.
Oui, il y a des fumeries. Voilà, il y a des fumeries cachées d'opium. Il y a toute une faune, une bohème littéraire qui fume de l'opium. Il y a effectivement des textes là-dessus. Et puis, il y a aussi toute cette grande littérature de l'opium qui vient des coloniaux, qui sont en fait des fonctionnaires, des militaires qui vont en Indochine, en Cochinchine, au Tonkin, etc. et qui reviennent opiomanes ou qui deviennent opiomanes et qui deviennent auteurs, du coup, parce qu'ils ont envie de chanter. Il y a des tas de types qui n'auraient jamais pris la plume, à mon avis. Jules Boissière, tous ces types-là, ils n'auraient jamais pris la plume s'ils n'avaient pas fumé de l'opium en Indochine. Mais c'est vrai, vous avez raison, il y a des fumeries d'opium à Paris, hantées par toute une série de poètes, et ça va perdurer dans les années 10, 20, un peu 30, mais 30 déjà, c'est un basculement sur les toxicomanies en France dans l'entre-deux-guerres, parce qu'en fait, on ne peut pas rappeler tout ça, c'est trop complexe, mais si vous voulez, il y a aussi la progression de la répression des stupéfiants qui existe, moi, sur laquelle je ne m'appesantis pas, mais c'est vrai qu'entre le...
Mais qui arrive tardivement, qui arrive dans les années 10.
Dans les années 10, et qui déclenche, par exemple, les foudres d'Artaud, qui, lui, est comme Thomas de Quincey, a besoin de la morphine, parce que c'est un malade, et on lui dit, on me prive de mon médicament, c'est scandaleux, monsieur le législateur, il y a toute cette apostrophe célèbre, il a besoin de la drogue, il est un malade, c'est comme un médicament. Bon.
Et vous citez, Cécile Guilbert, un extrait du Gaulois, un extrait du 12 mars 1890, où le journaliste écrit ceci. 25 ans, poète, a lu les paradis artificiels de Baudelaire, les confesseurs d'un mangeur d'opium de Quincey, a cru dès lors indispensable à sa gloire future de s'imprégner d'alcool, d'opium, de haschich et d'autres stupéfiants. À bout d'impressions rares, ou très rares, s'est rabattu sur la morphine. Chaque fois qu'il se pique, croit accomplir un acte de génie et travailler pour l'œuvre future. Prépare une plaquette dédiée à la divine et subtile morphine, avec dessin effrayant, tirage de luxe et néant de pensée. A pour sa seringue de Pravaz des vénérations d'apothicaire, se dit fin de siècle, n'est qu'un abruti.
Je pense qu'on aurait pu lire ça exactement à la même époque, dans les années 60 en France, quand toute la jeunesse voulait prendre du LSD ou fumer des pétards, si vous voulez. C'est toujours là, c'est la presse moralisatrice qui... Mais effectivement, la figure fin de siècle, du poète fin de siècle, est devenue voilà, une caricature sociale. C'est Stanislas de Guetta, c'est tous ces types-là qui sont voilà, des esthètes qui... Alors, il faut dire que la France fin de siècle, c'est quand même une usine à poison. Hein. C'est tous azimuts.
Alors, on va évidemment pas pouvoir s'attarder sur chacun d'eux. Hein. Vous citez Willy, Colette, Claude Farrère, évidemment, beaucoup. Le poète Edmond Jaloux aussi, Artaud, que vous venez de citer. Et puis Maurice Magre, un peu oublié aussi. Hein. Beaucoup, beaucoup d'oubliés dans cette anthologie. Magre, auquel vous consacrez de longues pages, Cécile Guilbert, et qui, selon le fameux livre de Max Milner, que vous citez également beaucoup, hein, qui est l'imaginaire des drogues, serait le seul vrai poète de l'opium. Qu'est-ce qui en ferait le seul vrai poète de l'opium, si vous partagez l'avis de Max Milner?
Parce qu'il l'a chanté sous tous les tons, en prose, en vers, qu'il y a consacré beaucoup de textes, qu'il en était fou, qu'il a écrit beaucoup de poèmes qui sont bons aussi, parce qu'il y a aussi beaucoup de poètes qui ne sont pas très bons. Quand on parle de Magre, c'est plutôt un bon poète de qualité, qui n'est pas très connu, c'est vrai qu'il est assez oublié. Si Farrère est le grand romancier de l'opium et qui était un esthète de l'opium aussi, Magre a aussi écrit des mémoires à la fin de sa vie. À l'époque, il s'intéressait au bouddhisme et il revient sur cette jeunesse où il a fumé de l'opium et il en fait une sorte de maîtresse à la fois exigeante et merveilleuse. Donc oui, Magre, c'est vraiment des beaux textes, des beaux poèmes sur l'opium. Puis il y a évidemment des drogues qui sont moins intéressantes littérairement selon moi, parce que justement ce sont les drogues du groupe, de la communauté, du lubrifiant du capitalisme, pour aller vite, hein, de la cocaïne, tous les psychostimulants, c'est des choses qui ne cherchent pas à vous faire faire sécession d'un ordre social ou d'un grégarisme, au contraire, c'est des drogues qui vous enchaînent au troupeau.
Puisqu'on évoquait Michaud, je voudrais revenir sur la position des surréalistes, justement, par rapport à la prise de drogue. Je pense notamment au traité du style en 28 d'Aragon, s'exprime longuement sur la question. Il n'est pas le seul parmi les surréalistes. Il écrit « Contenu inexistant, nul, l'escroquerie. Tous ceux qui veulent nous présenter sur le ton de l'aventure, de l'expérience, ce remède incertain sont des esbroufeurs. Il n'est pas lyrique de se droguer, c'est tout simplement lamentable. Je sais bien, lamentable et indifférent, absolument égal à une infinité d'actions qui, pour des raisons courantes, échappent à ce genre d'appréciation. Lamentable comme tout, soit, mais lamentable. Rien de nouveau, rien que ce qui est en moi, la même marchandise, sans fin. Cela vous change moins qu'un costume. On me fait passer d'un état dans l'autre et il est absolument sûr que si j'obtiens un instant d'exaltation, j'en paierai la dépression avec honnêteté, etc. Qu'est-ce qui les tient éloignés de la drogue, hein, Cécile Guilbert ?
En fait, ils cherchent pas du tout. Ils cherchent pas du tout ce que chercheront les poètes du grand jeu, qui eux s'y adonneront pour des raisons métaphysiques. Hein. Pas du tout. Le surréalisme, cette surréalité, si vous voulez, ne s'atteint pas de cette façon. Elle s'atteint par des mécanismes de l'esprit qui doivent être déclenchés automatiquement ou avec le jeu de l'inconscient, sans justement la substance qui pourrait faire écran aux associations libres d'idées. Elle serait forcée, si vous voulez. S'il y avait une prise de drogue, elle serait forcée. Elle serait, les rêves seraient déformés. Ils auraient pas. Il y a quelque chose de l'ordre de la pureté. Des associations d'idées, de tout le fonctionnement de l'esprit dont ils veulent effectivement, qu'ils veulent déréguler par rapport au principe de raison raisonneuse, si vous voulez, au principe des principes cartésiens. Mais si la drogue intervient, vous voyez bien que tout ça va être troublé. Et va être, donc c'est pour ça qu'ils veulent pas de la drogue. Et en même temps, il y a aussi le tabou formidable qu'a fait peser André Breton sur la mort de Jacques Vacher aussi. Ça fait partie aussi de cette histoire. Il a toujours dénié que Jacques Vacher ce soit...
C'était de l'opium. Hein.
Voilà. Vacher, son fameux Vacher, est mort sans doute d'une overdose d'opium, etc. Et Breton l'a toujours dénié. En ce qui n'empêche pas des individus autour du surréalisme de prendre des drogues. Mais ça, c'est autre chose. Mais sur les positions, si vous voulez,
théoriques,
théorique, il n'en est pas question.
Alors comment Michaud, justement, peut répondre à ça? Est-ce qu'au fond, la façon dont lui a pris ou pratiqué la drogue aurait pu se glisser dans le corpus surréaliste?
Ah bah, de toute façon, Michaud n'a rien à voir avec le surréalisme. Je veux dire, le mot le plus fort de Michaud là-dessus, c'est surréalisme. Ce mot fera peut-être fortune, mais il se vante. Il écrit ça à 25 ans, je veux dire, et c'est radical. Hein, je veux dire, bon, il a pu avoir de l'admiration pour certains textes surréalistes, mais
certains d'entre eux,
il en est loin, loin a priori.
Vous écoutez France Culture, La Compagnie des Poètes, par Manu Farine.
Alors, qui dit anthologie, dit classement, dit rangement, Cécile Guilbert. Le vôtre s'en remet, on l'a bien compris, au produit. Quatre grandes catégories, Euphorica, Fantastica, Inebrianta, Excitantia, qui n'est pas besoin de traduire et que vous empruntez à la classification de Lewin en 1928, que vous qualifiez de classification plus littéraire que scientifique.
Ben oui, parce que disons qu'il fallait faire aussi un peu de pédagogie dans cette anthologie, parce que je me suis aperçu que beaucoup de gens, à moins de s'y intéresser vraiment ou d'être consommateurs eux-mêmes, en fait, connaissaient pas très bien les produits, avaient tendance à tout mettre dans le même sac. Ils savent pas les effets, ils savent pas la nature des produits. Il y a des choses qui sont des plantes, il y a des drogues qui après sont des dérivés synthétiques de plantes. Donc il fallait un peu ranger ma mallette de dealer, quoi, d'une certaine façon. Donc j'ai pris cette classification qui est très simple à comprendre. On a les euphorica, les calmants du système nerveux avec l'opium et ses deux dérivés principaux, la morphine et l'héroïne. Après, on a les fantastica qui sont une famille énorme où il y a à la fois le cannabis sous son aspect marijuana et hashish, plus toutes les plantes divinatoires, plus la mescaline, le peyote, le LSD, les champignons qui sont pas des végétaux, qui sont des végétaux sans être des plantes. Bon, tout ça. Et puis après, on arrive sur les excitantia qui n'en a pas besoin de traduire, qui sont les stimulants du système nerveux, qui sont les drogues modernes par excellence, qui sont autre chose, on change là d'univers. C'est pas du tout un univers poétique. On n'est pas dans la compagnie des poètes, hein, avec les psychostimulants, la cocaïne, le crack, les amphétamines. C'est presque des médicaments. C'est vraiment les drogues du XXe siècle. C'est le siècle de la technique, des armées militaires qui foncent, des blitzkrieg sous amphétamines. Il y a des livres fantastiques sur les nazis et les amphétamines. C'est hallucinant. Et puis les amphétamines, c'est un médicament. Donc c'est donné à toute la population occidentale pendant des années. Toutes les années 50, on croit pas que les amphétamines, ça va être dangereux pour le système nerveux. Donc on en donne à tout le monde. Alors les écrivains en prennent pour écrire, hein, mais en même temps, Balzac prenait du café. Donc les amphétamines, c'est le dérivé du café au XXe siècle. Pour
café
les
qui
écrivains.
Figure dans l'anthologie.
Oui, alors j'ai voulu mettre Balzac et le café parce qu'elle traitait des excitants modernes de Balzac.
Vous avez mis le café pour Balzac.
Voilà, pour Balzac, le texte est tellement beau, le texte sur le café. Bon, puis il y a tellement bu de café, des milliers et des milliers de tasses. On a fait des estimations, c'est hallucinant. Il s'est calciné au café, puisqu'en fait, il est mort quand même très prématurément, calciné, brûlé au café.
cette classification, elle est parlante. Et les inebriantia, ben c'est quelque chose qui est un peu pas des drogues, mais en même temps des drogues. C'est à cause du grand jeu, en fait, si vous voulez. C'est à cause des poètes du grand jeu que j'ai voulu mettre les inebriantia. Bon, il y a l'éther, Jean Lorrain, tout ça, mais les solvants, les gaz, le gaz hilarant, tous ces trucs, le tétrachlorure de carbone que respirent les poètes du grand jeu pour des raisons métaphysiques. Alors là, on rentre dans des trucs, c'est très intéressant, parce qu'ils se mettent à respirer ça pour en finalement faire des expériences de mort dans la vie. Enfin, s'il y a tout un. Il y a tout un soubassement philosophique qu'on n'attendait pas, parce qu'on croit que les gens se défoncent. Les Anglais, aujourd'hui, font mettre le feu à des poubelles pour respirer des émanations, pour se défoncer à bas prix, si vous voulez. C'est des drogues de la misère. En fait, c'est des drogues très bizarres, tous ces solvants, parce que c'est des drogues de la misère. Et en même temps, pour les poètes du grand jeu, c'était des drogues qui allaient ouvrir les portes métaphysiques. Donc, vous voyez, on a changé de... Et aujourd'hui, on parle beaucoup des solvants. On dit, ah, le gaz hilarant fait un retour, comme si le gaz hilarant, il existe depuis... Il a été inventé au moment du romantisme allemand, le gaz hilarant. C'est un croisement de l'idéalisme allemand, de certaines expériences en Angleterre, etc. Il y a toute une histoire cachée du gaz hilarant qui est aussi amusante à remonter.
Qu'il vous reste à écrire, donc Cécile Gilbert.
Moi, j'en ai écrit pas mal sur le gaz hilarant parce que ça m'a fasciné.
Travailler une telle anthologie, est-ce que c'était aussi pour vous produire un discours sur la littérature? En tout cas, c'était dire quoi de la littérature?
C'était revisiter une grande partie de la littérature au prisme de cette case secrète de la psyché humaine qui est le franchissement d'un interdit, la transgression. Alors évidemment, tous les écrivains de la littérature en ont pas pris, mais même ceux dans leur refus, comme ceux que vous avez cités, les surréalistes, c'est intéressant aussi de voir ceux qui n'en... Voilà, à contrario, on peut aussi le lire en creux, c'est-à-dire voir qui n'en a pas pris.
Well, I wake up in the morning, look at my clock. It's way past noontime, no, I'm late for work. Tell me, what have I done wrong? And nothing go right with me, must be I've been smoking too long. Well, I go to find me some breakfast, but I ain't got no food. Take me a shower, but the water don't feel no good. Tell me, what have I done wrong? And nothing go right with me, must be I've been smoking too long. I got opium in my chimney, no other life to choose. Nightmare made of hash dreams, got the devil in my shoes. Tell me, what have I done wrong? And nothing go right with me, must be I've been smoking too long. Well, when I'm smoking, put my worries on a shelf. Don't think about nothing, try not to see myself. Tell me, what have I done wrong? And nothing go right with me, must be I've been smoking too long.
La voix de Nick Drake, been smoking too long. Alors, on va pas... Enfin, il y aurait tellement à dire sur cannabis hashish qui prend une grande place dans votre anthologie. Cécile Gilbert, hein, ça part même d'Hérodote, alors évidemment Théophile Gautier, Alexandre Dumas aussi, ce que j'ignorais, bon, Baudelaire évidemment, Maurice Magre, encore lui, toujours, et puis parmi les grands expérimentateurs, justement, Walter Benjamin, que vous citez longuement, et puis Michaud, évidemment, Raymond Bellour, vous l'avez dit, hein, c'était plutôt d'ailleurs le hashish, bien qu'on parle évidemment beaucoup de mescaline, mais le hashish a été en tout cas la drogue qu'il aura le plus pratiquée, si c'est le terme qui convient. Qu'est-ce que ça dirait de lui, justement, de Michaud, et de ce qu'il y cherche, que ce choix-là?
Le moment où Michaud se met à la drogue est assez particulier. Si vous voulez, je peux essayer de commencer à l'évoquer.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Bon, on est en 52. Michaud écrit un texte magnifique qui est publié dans Face au verrou. Face au verrou, qui est déjà un recueil dont le titre est quand même assez exemplaire. Et le texte s'appelle L'espace aux ombres. Et ça finit, après une série de points de suspension, par Je vais être englouti. Donc, on arrive à un moment où Michaud, qui écrit d'imagination depuis une trentaine d'années, disons, n'en peut plus d'imaginer. Il y a un texte fameux de lui dans La vie dans les plis qui s'appelle « N'imaginez jamais », avec ce jeu de mots « je, tu, moi ». Voilà. Et on sent qu'il est arrivé au bout du rouleau de cette fantastique imagination qu'il a commencé à à évaluer, à ressentir dès l'école. Enfin, je veux dire, on sent sa première composition française, il en parle dans quelques renseignements sur 59 années d'existence. Qu'est-ce que je sens sortir en moi ? Enfin, je veux dire, il a une imagination folle au sens littéral du terme. Et tous les textes de Michaud, pendant des années et des années et des années, en même temps que c'est des textes qui essaient d'analyser le processus, sont des textes qui n'arrêtent pas de fictionner au maximum. Et arrive le moment, je vais être englouti, où l'imagination, il n'en peut plus. Et le moment où il accepte l'invitation de Pollan de prendre la drogue, c'est littéralement pour casser la machine à imaginer, pour provoquer une mutation de sa personnalité, de ses réactions, etc., où il va se mettre à observer ce qui se passe en lui. Il est assez passionnant de voir que, je crois que c'est un des seuls écrivains qui ait conçu la prise de drogue, non pas pour écrire ensuite, écrire après, mais il écrit en partie pendant. Pollan a témoigné du fait qu'il était sidéré de voir Michaud, dès le début, dès la première prise de drogue ensemble, pas arrêter de prendre des notes.
Il y en a quelques autres quand même, ça, Benjamin aussi.
C'est le propre des expérimentateurs, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas drogués, mais qui cherchent à expérimenter les produits pour voir ce que ça leur fait. Et en général, c'est des drogues psychédéliques, comme par hasard, et qui, comme Junger, comme Walter Benjamin. Mais c'est vrai que Michaud le fait avec une amplitude et une systématicité plus forte.
Réellement, pour Michaud, la drogue a été une entreprise de déplacement, casser la machine à imaginer pour se brancher sur une nouvelle machine à percevoir et à penser, et le noter au fur et à mesure pour essayer ensuite de pouvoir en témoigner. Et misérable miracle, dès le début, vous vous rappelez, il y a le texte, puis il y a en marge des sortes de fragments de mots, des petites phrases, des notations.
Cécile Gilbert.
Il veut isoler ce qui est réellement le produit, le personnifie d'une certaine façon. Et ça, c'est très ancien, parce que avant même ces grandes expériences qui commencent dans les années 50 avec la mescaline, dans Équador, on peut le lire quand il parle de l'éther, dans La nuit remue, 1935, on peut le lire à propos de l'éther. Déjà, ses premières expériences de drogue, c'est l'éther. Et l'éther, déjà, il le personnifie très fortement dans Équador. C'est déjà quelque chose qui... Et puis après, bon, c'est vrai qu'il va garder silence là-dessus pendant un certain temps, et s'y remettre systématiquement.
Je crois qu'à partir d'un moment, le problème de Michaud, ça a été de changer de corps. Et la drogue, c'était changer de corps. C'était plus avoir ce même corps soumis à cette folie de l'imagination dont j'ai déjà parlé tout à l'heure. C'était provoquer une sorte de séisme psychique, physique et tout, de façon à pouvoir arriver à penser et à sentir autrement. Et ça, je pense que c'est vraiment la base. Enfin, je veux dire, c'est ce qui justifie, si vous voulez, que pendant, ça couvre une douzaine d'années, à peu près, les livres de Michaud sur la drogue, depuis Misérable Miracle en 56 jusqu'à aux Grandes Épreuves de l'Esprit, 10-12 ans plus tard. Ça fait 4 gros livres, plus au milieu ce livre très particulier qui est Paix dans les brisements. Mais il n'y a plus de grands recueils comparables à ce qu'était Plume suivie de l'Ouest intérieur, La nuit remue ou ailleurs, etc. quoi, ou La vie dans les plis. Donc l'essentiel de la production de l'écriture de Michaud, qui n'arrête jamais d'écrire, c'est ces 5 livres de la drogue.
Qu'est-ce que ça veut dire, Raymond Bellour, que de vouloir changer de corps dès lors qu'on parle d'écriture ?
C'est changer la façon de penser, de sentir, ne plus être la proie, disons, des mêmes dévorations, parce que je crois que Michaud a vraiment conçu et reçu l'imagination comme un pouvoir extraordinaire qui lui a permis d'écrire tout ce qu'il a écrit, mais en même temps comme un danger perpétuel, enfin je veux une fatigue, une sorte de prolifération infinie. En fait, il passe, disons, d'une imagination qui était constamment informée par la pensée à une pensée qui ne peut pas arrêter en même temps de s'imaginer elle-même. Mais les cinq livres de la drogue témoignent, c'est vraiment une entreprise de pensée, je veux dire. On ne peut pas appeler ça de la philosophie, parce que ce n'est pas de la philosophie, que Michaud est tout sauf un philosophe. Mais c'est quelque chose, dans les Grandes Épreuves de l'Esprit, il finira par appeler ça le penser. Comme une sorte de niveau autonome, si vous voulez, de la subjectivité. Et que ce qu'il arrive à cerner progressivement à travers les différents livres de la drogue, c'est le penser dans sa relation avec la pathologie, hein, avec les maladies, avec avec la dépression, avec la folie. Donc la drogue, ça a vraiment été un laboratoire de déplacement, une façon de pouvoir continuer à écrire en allant jusqu'au bout de l'observation de lui-même, mais sans que cette observation de lui-même soit déterminée par des fictions. On est dans une sorte de registre réaliste, si on peut dire. Et toutes les opérations qu'il n'arrête pas de décrire dans Misérable Miracle, dans L'Infini Turbulent et tout, avec les surprises violentes qui peuvent arriver. Et la quatrième expérience de L'Infini Turbulent, celle où il a, à cause sans doute d'une erreur de dose,
de dosage, hein, de mescaline,
il a pris un peu trop de mescaline. Et là, il y a eu un moment où ça a été la panique. Mais en même temps, ça a été « j'ai vu les dieux, les milliers de dieux hein ». Il y a une illumination extraordinaire, là.
On écoute un extrait de « Misérable miracle », dit par Michel Bouquet, et c'était en 1966.
Après une longue période de néant, et dans une sorte de repos après le combat, où était-ce ma capitulation qui était en train de se préparer, les mouvements rapides étaient toujours là, beaucoup moins violents, plus arrachants du tout, pourtant maîtres encore, et j'allais avoir l'occasion de m'en apercevoir. Sans raison particulière, sauf, et ce fut suffisant, que je m'étais étonné de n'entendre aucune musique intérieure, alors que des bruits du dehors et même une lointaine harmonie entraient en moi. Souverainement, je vois paraître, après beaucoup de couleurs bleues, une bonne cinquantaine de joueurs de trompette, la trompette levée, parfaitement ridicule, habillés de vêtements bleus et roses, dont je ne sais et ne veux savoir le nom, mais faisant 13 opérettes, et qui se mettent à jouer, ou au moins à mimer un concert à une vitesse sans nom, et la moitié d'une ville comme Orléans pour les écouter, habillés eux aussi grotesquement, voyant comme des cravates. Et s'il n'y avait pas 40 rangs de balcons superposés, et pour que rien ne manque à colonnettes, et ridiculement étirés, je veux être pendu. Et le tout, cela va de soi, dans des couleurs, rubans de demoiselles et confiseries pour enfants. Une parfaite nausée.
Monument d'une autre civilisation.
Arrêt. Enfin. Arrêt. Long arrêt. Une dernière tranchée de feu. Arrêt encore. Serait-ce fini?
Qu'est-ce qui fait alors de Paix dans les brisements, hein, ce texte de 59 qui vient après Misérable miracle en 56 et L'infini turbulent en 57, qui sont donc ses deux premiers textes consécutifs à son usage de la mescaline. Donc Paix dans les brisements, qu'est-ce qui en ferait ce texte
alors,
parfait, comme vous dites?
C'est d'abord un livre particulier, parce que c'est un livre vertical qui ne peut s'ouvrir, qui ne s'ouvre pas de droite à gauche comme on feuillette un livre normalement, mais c'est des grandes pages qui se déplie, disons. Bon. Le livre est composé de quatre éléments. Une introduction à l'expérience, ensuite un texte qui s'appelle « Signification des dessins », un poème et des dessins. Et entre le poème et le dessin, il se produit une chose extraordinaire, c'est qu'il essaye, comment dire, le poème mime le dessin. Et j'aurais envie de dire, même si ça paraît un peu absurde, le dessin mime le poème. Le dessin, c'est une sorte de colonne vertébrale immense qui est comme la fiction d'un, ce qu'il appelle le sillon de l'être, si vous voulez. Le sillon est figuré, et le sillon, c'est littéralement la colonne vertébrale de l'être. Et au fur et à mesure que le livre se déroule, ou que vous déroulez le livre, puisque vous tournez les grandes pages,
se déplie,
la représentation se raréfie. Et petit à petit, on arrive, il n'y a plus que des petits traits, et puis ça finit en bas dans une page blanche, il n'y a plus qu'une sorte de virgule. Et pareil dans le poème est parallèle au dessin, et ce à quoi il arrive, c'est à une sorte de plénitude, d'absence, de vide plein, si on peut dire. Hein, les mots deviennent un peu absurdes, mais je veux dire de plénitude d'être par le vidage absolu. Ce livre, si vous voulez, est une sorte de petit cristal théorique à l'intérieur de l'œuvre de Michaud. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'en plus, ce sillon qui était dans tous les textes antérieurs de Michaud, j'en cite un ou deux, mais il y en a beaucoup, était une sorte de clivage, de partage, de scie qui parcourait, qui des pieds à la tête, scindait le corps sur lui-même, devient là quasiment la colonne de vie, si vous voulez. Le corps le plus expérimental possible, et que les mots arrivent à porter en même temps.
Alors, à propos de mime, hein, peut-être, on écoute la voix de Michaud.
Lorsqu'on me proposa de faire un film sur les visions mescaliniennes, je déclarais et répétais, et le répète encore, que c'est entreprendre l'impossible. Quoi qu'on fasse, cette drogue est au-delà. Même d'un film supérieur, fait avec des moyens beaucoup plus importants, avec tout ce qu'il faut pour une réalisation exceptionnelle, je dirais encore de ces images, et d'avance, qu'elles sont insuffisantes. Elles devraient être plus éblouissantes, plus instables, plus subtiles, plus labiles, plus insaisissables, plus oscillantes, plus tremblantes, plus martyrisantes, plus fourmillantes, infiniment plus chargées, plus intensément belles, plus affreusement colorées, plus agressives, plus idiotes, plus étranges. Quant à la vitesse, elle est telle que toutes les séquences réunies devraient tenir en 50 secondes. Là, le cinéma devient impuissant, d'autant qu'il faudrait toutes ces caractéristiques augmenter à la fois. Les images du film sont donc très assagies, ralenties, atténuées, simples indications des formations visuelles par lesquelles, presque obligatoirement, si la dose prise est suffisante, l'imagination de celui qui se drogue passera, qu'il soit un génie de la vie intérieure ou un homme sans problème. On n'a pas tenté de représenter l'action générale et en profondeur sur une personnalité, film qui serait tout différent. Mais les types d'images que l'on rencontre communément dans ces états, elles suffiront à montrer à ceux que l'important problème des visions intéresse combien celles-ci diffèrent de celles du rêve et d'une certaine manière de celles provoquées par le hashish, et par où elles rejoignent celles que certains malades mentaux ont rapportées tant bien que mal. Voilà la justification de cette tentative. Avant, il n'y avait rien. Après, on va pouvoir faire mieux.
Alors, ça n'est pas tout à fait sûr. La voix de Michaud, et c'est surtout pour la voix de Michaud qu'on entend cette précieuse archive, hein, qui est un extrait d'Images du monde visionnaire, qui est un curieux objet, un film réalisé avec Éric Duvivier en 64, en partenariat avec les laboratoires Sandoz, qui avait notamment, je crois que c'est vous qui l'expliquez, Cécile Guilbert, synthétisé le LSD, ces laboratoires-là, en 1938. Hein. Un film raté, mais décisif, écrivez-vous dans l'air Michaud, Raymond Bellouard.
Oui, ça a été pour Michaud un épisode tragique, parce que, si on le dit en un mot, il s'est trompé de réalisateur, quoi. Là où il aurait fallu un cinéaste expérimental américain, genre, je sais pas, Stan Brakhage, Joris Frampton, Michael Snow, bon. Il est tombé sur un fabricant de films scientifiques, qui a fait un film plat, qui a essayé, tant bien que mal, de rendre compte des visions extraordinaires que Michaud libérait à l'intérieur de ses textes. J'ai vu le film avec Jean-Jacques Lebel une fois, qui connaissait bien et Michaud et les drogues, et qui m'a pointé les 4 ou 5 images qui intéressaient un peu Michaud dans le film. Mais c'était pas beaucoup sur l'ensemble d'un film. Donc c'était une expérience extrêmement décevante, d'autant que Michaud aimait le cinéma. Il s'est toujours beaucoup intéressé, il y allait. Il a même dit un jour à Micheline Famkin, qui a été sa compagne pendant toutes les dernières années de sa vie, que s'il était plus jeune, en fait, aujourd'hui il ferait du cinéma. Il aimait le cinéma, il aimait l'idée de la vitesse des images. Et le film l'a énormément déçu. Enfin, il y a des lettres. Enfin, on sent vraiment que ça a été un vrai choc. Il a investi 2 ans de sa vie, ce qui pour quelqu'un comme lui, qui était plutôt économe de son temps, était énorme, à suivre le travail d'Éric Duvivier, à lui donner des informations, etc., etc. Et ça a été un vrai choc. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai du même coup accordé dans l'édition de la Pléiade une grande importance au film. Parce que ça valait la peine de marquer en négatif, si vous voulez, tout ce que Michaud avait pensé que le film aurait pu être. Le film aurait pu littéralement être une traduction, une expression encore plus forte que tout texte qu'il aurait pu écrire ou que toute image qu'il aurait pu dessiner, du rendu de ce qu'avaient été les expériences qu'il avait vécues à travers les drogues.
C'est hors représentation d'une certaine façon. La mescaline, c'est tellement puissant. Enfin, j'ai l'impression que c'est même avec un meilleur cinéaste expérimental, j'ai l'impression que ce serait toujours en deçà de la puissance et et que de toute façon, on le voit bien parce que toute imagerie qui est plaquée sur le psychédélisme, c'est toujours un peu pauvre et grotesque, quoi. On dépasse pas le niveau de la pochette de rock expérimentale des années 60-70, quoi. Cette imagerie psychédélique, elle est très pauvre finalement. Elle est impensif.
Alors peut-être que les auditeurs, comme moi par exemple, ne sont peut-être pas tout à fait informés de l'état dans lequel peut mettre la mescaline. Non, mais c'est Gilbert non plus, je crois.
Hein, non.
Parce que vous relatez dans l'introduction les nombreuses expériences qui ont été les vôtres en matière de drogue, à l'exception de la mescaline. Enfin, pas que la mescaline, mais en tout cas à l'exception de la mescaline, ce qui est un regret.
Bien sûr, mais si vous voulez, ça c'est aussi des contraintes dans lesquelles nous sommes, c'est-à-dire que la mescaline, vous n'allez pas chez le dealer acheter de la mescaline, c'est très compliqué de trouver de la mescaline, il faut avoir des complicités médicales, et les beats en fait, ils avaient de la chance de vivre près du Mexique, parce qu'ils avaient accès aux produits d'une certaine façon plus facilement, c'est là où on voit aussi que les contraintes géographiques, historiques, pèsent sur les prises de substances. Nous, les Européens, on a le cannabis, ce qui vient du Maghreb, c'est pas très loin, etc. Mais on n'a pas le peyote et on n'a pas la mescaline. Sauf le contexte médical.
La Michaud l'a eu par Paulhan, je ne sais pas par qui Paulhan l'avait eu.
Puis Lebel, il était à coquiner avec tous avec Delay, avec les gens qui le prenaient comme cobaye, avec d'autres artistes, parce qu'il y a eu des tas d'expériences à Sainte-Anne, en fait, de psilocybine et de champignons. Sartre, pareil. Hein, il s'est fait administrer de la psilocybine. À Sainte-Anne, donc toute cette histoire du professeur Delay, les artistes, là, ils ont pu avoir accès à des choses.
Oui, puis Michaud était proche de Delay.
Oui, tout à fait.
Mais Michaud écrit, par exemple, « La mescaline diminue l'imagination », donc on est bien d'accord si c'est ce qu'il cherchait. « La mescaline diminue l'imagination, elle châtre l'image, la désensualise, elle fait des images 100% pures, elle fait du laboratoire, elle fait des images si exactement dépouillées de la bonne fourrure de la sensation et si uniquement visuelles qu'elles sont le marchepied du mental pur, de l'abstrait et de la démonstration. Aussi est-elle l'ennemi de la poésie, de la méditation et surtout... du mystère, ça c'est ce qu'il écrit dans Misérable Miracle, je crois. Alors pardon de cette minute concrète, mais qu'est-ce qu'elle produit, la mescaline?
Elle produit des images.
Accélérations d'images.
Elle provoque des accélérations d'images. Alors évidemment, on parle parce que nous, on ne l'a pas essayé, mais tout ce qu'on a lu, si vous voulez. Alors moi, c'est la drogue qui me fascine le plus, parce que si vous voulez, j'ai l'impression que là, indépendamment des individualités, des subjectivités, des tempéraments individuels, la mescaline produit des visions types. Des invariants, si vous voulez. Ça, c'est très rare, parce que normalement, les drogues provoquent des effets. Bon, ça, en fonction du sujet, ça change beaucoup. Mais la mescaline, elle provoque comme des images types. Elle provoque de la scintillation, elle provoque de la couleur, comme une impression de joaillerie, avec des couleurs extrêmement violentes, etc. À tel point que, en fait, d'abord, il y a des chercheurs qui ont essayé d'inventorier des types de motifs, et on peut le faire avec la mescaline, c'est sans doute la seule drogue avec laquelle on peut le faire. C'est que un Indien, d'Amérique centrale qui prendra de la mescaline, un occidental comme Michaud va voir les mêmes choses. Et par exemple, j'ai découvert un truc, c'est que par exemple, sur les textiles de des peuples qui prennent de la mescaline ou du champignon, il y a une reproduction en termes de textiles, puisque c'est des usages sacrés, des usages rituels, il y a des reproductions de motifs qui sont dus et qui sont livrés par la prise de mescaline. Et donc, il y a des toiles d'araignées, des treillis, des spirales. Et Havelock Ellis, qui est un des premiers à avoir fait l'expérience de la mescaline, raconte exactement la même chose. C'est-à-dire que tous les preneurs de mescaline, quand ils font l'effort d'être un peu objectifs et pas de délirer, racontent une sorte d'invariance des images, des motifs qu'on voit sous mescaline. Alors ça, c'est intéressant, parce que je crois que c'est la seule drogue qui procure ce... Mais Michaud l'a décrit, évidemment, avec plus de détails et beaucoup plus. Et puis, il y a ce côté, ce pullulement, cette rafale, cette vitesse des images et des couleurs, comme un kaléidoscope, je sais pas, la métaphore, ça serait peut-être celle d'un kaléidoscope ultra brillant, ultra violent, qui vous submerge. Donc en fait, c'est des images pures, parce qu'il n'y a pas de place pour une élaboration psychique de représentation intercalaire, quoi.
Non, c'est exactement la raison pour laquelle, disons, pour se reposer de la mescaline, il est revenu quand même beaucoup plus constamment au hashish, enfin je veux dire, en tant que producteur d'images. Opposé à la dévastation par la prolifération d'images à l'infini que la mescaline produisait.
Alors par ailleurs, ceci dit, la mescaline, Michaud va l'utiliser aussi quand même de façon extrêmement, alors sauf accident, mais normalement, les quelques fois où il a eu recours à la mescaline, c'était quand même avec beaucoup de prudence, avec distance.
C'était avec des gens qui s'occupaient de lui, c'était avec parfois sous surveillance médicale, avec Berthelet, avec Paulhan, avec des médecins à Sainte-Anne, enfin... il était très encadré. Hein.
Ce qu'on a pu lui reprocher par ailleurs, hein, vous y revenez un petit peu dans Lire Michaud, Raymond Vélour, hein, sur le fait que, au fond, pour certains, Michaud n'ait pas été assez junkie ou assez Burroughs. Hein,
c'est pas le propos.
Oui, non, mais on lui reprochait de prendre de la drogue de façon civilisée, je veux dire.
Et qu'on l'ait vu, du coup, et là, je crois que vous citez Sioran aussi, hein, finalement, davantage comme un observateur que comme un visionnaire,
oui,
et donc
aussi...
pas comme un poète.
Mais la phrase de Sioran est pas gentille. D'ailleurs, il cite un, je sais plus qui avait dit, un ermite, mais qui connaît l'heure des trains. Pour dire la prudence qui était celle de Michaud à l'intérieur même de ce qui pouvait apparaître comme une exploration très dangereuse, disons.
Raymond Bellour, Cécile Guilbert, merci à tous les deux. C'est la fin de cette émission, hein, ou presque, puisque je vous laisse la conclure, la terminer, entre vous et sans moi. Alors, bon après-midi à vous, à toutes et à tous.
Moi, j'ai envie de vous poser une question, en fait, qui me brûle les lèvres. Il y en a deux, en fait. La première, c'est est-ce que le fait de lire et d'aimer et d'étudier tellement Michaud vous a donné envie d'essayer des substances comme lui ?
Moi, j'ai un problème, c'est que je suis extraordinairement intolérant aux drogues. J'ai fait, chose quand même relativement rare, une sorte de paralysie physique assez violente avec de l'herbe.
Ah oui, d'accord.
Donc, j'ai, à partir de là, considéré qu'il allait m'être prudent.
D'accord. Et l'autre question, bon, plus littéraire que j'ai envie de vous poser, c'est parce que je me suis beaucoup interrogée sur ce fameux poème de Michaud qui s'appelle Le Jardin Exalté, qui est un des, si je me trompe pas, je parle sous votre contrôle, un des derniers poèmes de sa vie. Et je me demande s'il a pas renoué avec les terres, là.
Non.
Non.
Non, non. C'était, je pense que s'il a renoué avec le H.
Ah.
Malgré la promesse qu'il avait fait à Micheline Tompkin de plus prendre de drogue, parce qu'il faut quand même voir que à partir du moment où il a arrêté relativement vite. Hein, je veux dire, c'est quelques années, mais il a gardé des névralgies assez continuelles jusqu'à la fin de sa vie. Il y a quand même eu un effet de toutes ces prises de drogue, et il avait donc promis à Micheline Tompkin de plus rien prendre. Il a une fois un tout petit peu triché, précisément mais. Et c'est ce dont le Jardin Exalté témoigne, si vous voulez, mais qui est une prise de drogue soft, si on peut dire.
La Compagnie des Poètes, c'est vendredi prochain, même heure, même endroit. Aujourd'hui, à la technique Alain Joubert, à la préparation Thierry Beauchamp et à la réalisation François Connac. Le détail des actualités des invités du jour, Raymond Bellour et Cécile Guilbert, c'est sur le site de l'émission. À réécouter, podcaster ou partager sur franceculture.fr. Mais sans plus tarder, c'est l'heure de la méthode scientifique par Nicolas Martin.